Donc bonjour à chacune et à chacun. J'avais pensé vous parler de ce sujet, l'homme selon le communisme et l'homme selon la Bible. Parce que nous avons connu deux disparitions ces derniers jours. Alors il y en a une que nous avons déjà abondamment évoquée. Donc merci à Philippe d'avoir fait. Voilà. Et il y en a une que, ici, là, vous la voyez, là, une petite. Et puis, il y en a un autre, voilà, beaucoup plus grand, parce que des deux, je vous dis que pour moi, il y en a une beaucoup plus importante que l'autre, parce qu'il y en a une qui a vu passer l'histoire, et il y en a un autre qui l'a faite. Alors, c'est vrai que Elisabeth II a régné plus longtemps que Mikhail Gorbatchev a été président... plutôt premier secrétaire de l'URSS, mais finalement, elle a vu passer la fin de l'Empire britannique, mais on sait bien que la reine, alors tu pourrais nous en parler, Thibault, statutairement, n'a pas le droit de prendre part à la politique, et donc finalement, elle a vu passer les trains de l'histoire, elle en a vu passer beaucoup, mais sans rien faire grand-chose, tandis que lui, eh bien, il a été le dernier homme soviétique. Et... je vais me placer dans une position que beaucoup ici n'ont pas connue, puisque je pense que nous sommes peut-être seulement une petite dizaine à avoir eu en 1984, quand Mikhail Gorbatchev est nommé, plus de 18 ans. Moi, j'avais 18 ans, et bon, quelques-uns ici dans cette salle avaient un petit peu plus, mais nous n'étions vraiment pas très nombreux. Et donc, vous n'arriverez pas, et quand je discute avec Lucie et Clarisse, qui ne sont pas là, mais... vous n'arriverez pas à vous replacer dans la position qui était la nôtre à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait ces deux blocs qui s'opposaient. Il y avait la frayeur, et j'emploie le terme exprès, de ces SS-20 qui étaient braqués sur l'Europe et dont on ne savait pas si ils n'allaient pas un jour déverser des missiles nucléaires sur nos peuples. Il y avait cette succession de dirigeants soviétiques. Il y avait eu un peu un dégel sous Khrouchtchev, mais ça avait été rapidement mis de côté. Puis ensuite Brejnev, vous rappelez la tête de Brejnev, remplacé par Andropov, vous rappelez la tête d'Andropov, remplacé par Tchernienko, vous rappelez la tête de Tchernienko, toutes ces brochettes qu'on voyait au 1er mai là, sur la place Rouge, sur l'estrade, dans leur grand par-dessus, immobile, l'air patibulaire, voilà. Et donc, on avait peur, on avait vraiment peur. Et ici, beaucoup sont nés après, en 1980 ou après. Et donc, vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez pas connu ça. Parce qu'il y a eu ce monsieur qui est arrivé en 1984. Voilà. Alors, donc, c'est quand même quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire. Alors, bien entendu, nous savons que notre Dieu est souverain et qu'il est au-dessus de tout. Mais cet homme-là, par... ce qu'il a apporté, parce qu'il faut bien voir que maintenant, avec le recul, ça nous semble un peu évident, mais à l'époque, ce ne l'était pas du tout, et puis Mikhail Gorbatchev était quand même l'héritier de tout un système auquel il appartenait. Mais il a eu cette vision de devoir faire changer les choses en URSS, et il les a fait changer. Alors, j'aimerais que nous... avant de rentrer un peu plus dans le propre de mon sujet, et rassurez-vous, nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire quelques versets, même si je ne ferai pas de prédication textuelle, et que si ce sera plutôt thématique, eh bien, j'aimerais d'abord que nous examinions trois points, trois interrogations que je me suis faites. Premièrement, c'est pourquoi l'idéologie communiste a-t-elle émergé? Deuxièmement, pourquoi l'idéologie communiste a-t-elle tant fasciné? Et troisièmement, pourquoi le système communiste s'est-il effondré? Premier point, pourquoi l'idéologie communiste a-t-elle émergé? Eh bien, parce qu'elle rencontrait des attentes fortes. Et là, je vais rapidement balayer quatre personnages. Le premier, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, philosophe français de la fin du XVIIIe siècle, qui a eu un impact important, puisque dans deux livres importants, Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et le contrat social, il a posé comme principe que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Voilà. Et donc, sa pensée a eu une influence déterminante dans l'évolution de la pensée occidentale dans les décennies qui ont suivi, pour arriver finalement au communisme. Nous allons y venir dans un instant. Alors, Jean-Jacques Rousseau a été suivi par ce joyeux de rire là, que vous voyez ici, qui s'appelle Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui, dans beaucoup de livres, c'est pour ça que je ne les ai pas tous mis, a eu comme message important que l'histoire a un sens, l'orientation de l'histoire, et aussi que l'État résume les aspirations humaines. Et donc, de ces différentes influences, et puis il y en aurait bien d'autres, et là je ne fais que schématiser à l'extrême, ce sont un domaine dont je ne suis pas spécialiste, mais sous cette influence-là est arrivé au milieu du XIXe siècle quelqu'un qui a eu une importance considérable, qui s'appelle Karl Marx. Mais ce n'est pas le premier communiste. Le premier communiste, j'ai découvert son nom en faisant un petit peu des recherches, il s'appelle Étienne Cabet, C-A-B-E-T. Qui a entendu parler d'Étienne Cabet ? Étienne Cabet, c'était un penseur politique français qui est né en 1788 et mort en 1856, et qui le premier, en 1840, donc 8 ans avant que Karl Marx avec Friedrich Engels sorte le manifeste du Parti communiste, donc en 1840, 8 ans avant, se définit comme communisme et qui a prôné une forme de communisme chrétien, parce qu'Étienne Cabet était un chrétien, et il a fondé la Cité du Bonheur. Il est parti aux États-Unis et il a fondé une espèce de cité utopique où effectivement se pratiquait un proto-communisme, si je puis dire, entre ceux qui étaient là. Et il a été l'auteur d'un livre qui a un peu influencé, qui s'appelle « Voyage en Icarie », qui est un peu une utopie dans laquelle il développe ses idées et comment les hommes pourraient, sur une base à la fois communiste et chrétienne, vivre ensemble dans le partage commun. Mais Cabet n'a pas laissé beaucoup son nom dans l'histoire, la preuve, vos visages quand j'ai annoncé son nom, tandis que Karl Marx, là, ça parle un peu plus. Et Karl Marx a eu ces deux formules dans le manifeste du Parti communiste, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà, ça c'est deux phrases fortes que je retiens de Karl Marx. Et Karl Marx, ensuite, a eu comme héritier ce monsieur qui s'appelle Vladimir Ilitch Ulianov, qu'on appelle Lénine, et qui, lui, prônait à la suite de Karl Marx la création d'un homme nouveau. Et il disait, les hommes auront pris petit à petit l'habitude du travail en commun, et dans 20 ou 30 ans, il y aura un autre monde, d'autres hommes et d'autres mœurs. Lénine se disait bien entendu héritier de Karl Marx, c'est pour ça qu'on parle de marxisme-léninisme, mais le marxisme avait beaucoup d'enfants, et pas simplement le léninisme, mais aussi des enfants qui étaient plus, en prise avec une idée de moins de rupture, alors que Lénine pensait que pour apporter cette société idéale, il fallait qu'on passe par une phase de rupture, hein, de dictature du prolétariat. Et surtout, Lénine avait une pensée qui était fondamentalement athée. La religion, c'est l'opium du peuple, et il s'opposait violemment à cela, alors que d'autres disciples de Karl Marx étaient moins là-dessus. Alors pourquoi l'idéologie communiste a-t-elle émergé ? Parce qu'elle rencontrait, comme je le disais, des attentes fortes. Et ces attentes, elles sont quoi ? Elles sont inscrites dans le cœur de l'homme, de l'être humain, des attentes de justice, des attentes de réduction des inégalités, des attentes d'avoir un homme nouveau, des attentes d'une société harmonieuse, de fraternité, et que l'histoire, qui, comme Hegel le disait, avançait, eh bien, puisse arriver à un aboutissement radieux, avec le grand jour qui allait se lever, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette idéologie communiste a émergé parce qu'elle héritait d'aspirations anciennes, et d'aspirations anciennes très souvent chrétiennes. Et on a bien souvent rapproché du communisme ce qu'ont vécu les premiers chrétiens à Jérusalem après la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, quand, acte 2, versets 42 à 47, ils avaient toutes choses en commun, ou acte 4, versets 32 à 36 de mémoire, eh bien, personne ne disait qu'une chose était à lui, mais il mettait tout en commun, et c'était, ben, c'était quoi ? Mais c'était finalement une formule de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Voilà. Alors nous savons par le livre des Actes et ce que l'histoire ecclésiastique nous retrace que cette période à Jérusalem n'a pas duré, semble-t-il, très longtemps, mais spontanément, juste après la descente du Saint-Esprit, a été vécu finalement quelque chose qui rejoignait les aspirations qui, des siècles plus tard, se feraient jour et donneraient naissance au communisme. Dans la suite de l'histoire de l'Église, le mouvement monachique, c'est-à-dire le fait que des hommes ou des femmes se mettaient dans un endroit, se séparaient du monde, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient toutes leurs choses, toutes leurs possessions en commun, puisque quand quelqu'un rentre dans les ordres, comme on dit, eh bien, il fait abandon de tous ses biens, et les biens sont désormais communs. Et l'idéal monachique, c'était bien aussi d'avoir cette société harmonieuse, hors du monde, séparée, avec des inégalités qui n'existeraient plus, et avec un partage commun. Alors, le monachisme n'a pas été sans déviance, nous le savons, hein, richesse de Cluny en témoigne un petit peu, même si il y a eu la révolution cistercienne, on voit bien qu'il fallait périodiquement que des renouveaux se passent au sein de ce mouvement pour rallumer la flamme initiale et la pensée initiale. Mais à partir du XVIe siècle, il y a eu la rupture de la réforme, et cette réforme luthérienne, calviniste, zwinglienne, a donné lieu à des mouvements un peu extrêmes. En particulier le mouvement de Thomas Münzer, et ce qu'on appelle la réforme radicale, et qui a pris, Thomas Münzer a défini une espèce de communisme aussi, où tout le monde avait tout, même, ça a même dérivé du temps de Jean de Vandelède, avec tout le monde avait les mêmes femmes. Mais ça, c'était un peu un problème. Et donc, on voit bien quand même qu'il y avait à la base cette aspiration. Et puis, il y a les utérites. Alors, I don't know if our friends from Canada know a little bit about utterites, but they are manifold in Canada, because this is a three-quarter of them live today in Canada. Donc les utérites, c'est un mouvement qui a pris naissance dans le Tyrol autrichien, qui s'est développé en Moravie, puis ensuite qui est parti au Canada et aux États-Unis. Et ça existe encore aujourd'hui, donc il se distingue des autres anabaptistes, donc anabaptistes, mennonites, vous voyez, c'est ce mouvement-là, parce qu'ils pratiquent encore aujourd'hui la communauté de biens, des biens. Donc mise en commun de la propriété et de la production. Les repas sont pris ensemble, l'éducation des enfants s'est faite ensemble aussi, et donc c'est une espèce de pré-kolkhoz ou de pré-kibbutz qui existe encore. Donc... Et il y a quatre grands principes utérites. Le premier, c'est que la communauté des fidèles rétablit un état paradisiaque où la propriété est absente. Et ça annonce finalement quelque part Rousseau. Elle est à l'image de l'amour fraternel qui unit le père et le fils. Elle s'appuie sur un principe mystique qu'on appelle la résignation, par laquelle le fidèle ne peut plus désirer posséder et s'abandonne à la providence. Et le quatrième, c'est enfin la destruction de tous les désirs égoïstes des hommes. Ça aussi, hein, chacun selon ses besoins, j'ai plus de désir égoïste au-delà de ce qui est strictement mes besoins. Et donc ces utérites se basaient bien entendu sur le modèle de l'Église primitive, et si un frère meurt, eh bien, son linge, ses vêtements reviennent à la communauté encore aujourd'hui. Et donc ils vivent par groupe de 200 à peu près, dans un petit village dispersé au nord des États-Unis et au Canada. Donc vous voyez que c'est encore quelque chose qui se passe, non sans problème aussi, bien entendu, et ça, nous verrons un petit peu pourquoi. Alors, ça c'est donc pourquoi l'idéologie communiste a-t-elle émergé ? Ben parce qu'il y a cette aspiration humaine qui existe. Alors pourquoi elle est tant fascinée ? Ça c'est quelque chose qui, moi, me fascine, que d'aller autant fasciner. Et pourquoi ? Parce qu'elle promettait un humanisme radieux, une espérance, donc ça c'est bien, mais aussi tout en éliminant Dieu. Alors ça c'était bien, parce que du coup, on avait l'aspect humanisme radieux, l'espérance, mais on éliminait Dieu, parce que Dieu gêne. Et pourquoi Dieu gêne ? Parce qu'ils ne sont pas venus à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et bien souvent, ceux qui ont fait un peu des réflexions là-dessus le disent, que bien souvent c'est quand il y a ce rejet comme cela fondamental de Dieu, c'est parce qu'il y a une conscience au fond de l'homme que Dieu a mise, qu'il y aura un jugement à la fin, et que quand mes œuvres sont mauvaises, et on connaît la vie de patachon de ce monsieur, eh bien, on n'a pas envie de Dieu. Alors, Jean-Paul Sartre est bien entendu l'exemple par excellence de celui qui a persisté à défendre le communisme envers et contre tous. Certains penseurs se sont réveillés un peu avant, mais lui, il a quand même persisté longtemps, et Simone de Beauvoir, sans doute, semble-t-il, encore plus. Mais bon, voilà, c'est de la littérature, tout ça. Mais il y en a un autre, Frédéric Joliot-Curie. Frédéric Joliot-Curie est sans doute un des esprits français les plus brillants du XXe siècle, prix Nobel de chimie, donc gendre de Marie Curie, et communiste enragé, il n'y a pas d'autre terme, puisque quand il y a eu un procès en France, le procès Kravchenko, Kravchenko, c'était un homme qui était sorti du goulag et qui avait écrit ce qu'il avait vécu, et un journal communiste français avait fait un procès en disant c'est faux, c'est qu'un tissu de mensonge. Donc il y avait eu un procès assez médiatisé à la fin des années 40, tout début des années 50, et Joliot Curie avait été un des plus virulents pour dire non, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Et donc, moi, ça me sidère que quelqu'un qui ait eu un esprit aussi brillant ait pu être aveuglé à ce point-là, puisqu'il a reçu le prix Staline pour la paix. Prix Staline pour la paix, ça s'appelle un oxymore. Voilà. Pourquoi ça t'a fasciné jusqu'à longtemps, Georges Marchais ? Léon, Philippe Bagache, ça rappellera quelque chose à certains. Bon, Georges Marchais, c'était le premier secrétaire du Parti communiste quand j'étais jeune. Il faisait beaucoup rire, parce que les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie avec Georges Marchais. Mais il n'empêche que le Parti communiste français, il était derrière ce qui se faisait à Moscou, mais sans réfléchir, là où d'autres partis, comme celui de Enrico Berlinguer en Italie, avaient su prendre de la distance de façon, à mon avis, plus raisonnable. Mais voilà. Donc ces gens-là, eh bien, pourquoi ? Parce qu'ils s'accrochaient à quelque chose qui était une espérance, mais finalement, c'était arrangeant, parce que du coup, on mettait de côté Dieu, et puis on ne voulait pas que son joug soit cassé. On ne voulait pas voir la réalité. Mais pourtant, le système s'est effondré. Et pourquoi le système s'est-il effondré ? Ben parce qu'il n'avait pas une vision réaliste de l'homme. Alors tout d'abord, j'ai pris cette citation de Jean-Claude Guillebeau. Jean-Claude Guillebeau est un journaliste catholique chrétien que j'aime beaucoup. Et il a dit « Le communisme est une idée chrétienne qui est devenue folle. L'aspiration à l'égalité humaine dont procède le marxisme est l'essence même du christianisme. Mais pour les communistes, tous les moyens sont bons pour y parvenir, même la violence, pervertissant ainsi l'idéal évangélique. » La cité terrestre remplaçait la cité de Dieu. Et donc, effectivement, le système s'est effondré parce qu'il n'avait pas une vision réaliste de l'homme. Et vous voyez cette sinistre moustache qui appartient, je n'ai même pas envie de mettre son nom par écrit, à Joseph Staline. Et Staline personnalise pour moi le dévoiement personnel du communisme. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en cinquième position dans ma brochette précédente. Parce que pour moi, il n'y a pas d'idéologie stalinienne, il y a juste une volonté de pouvoir absolu et d'élimination de qui pourrait se mettre dans mon chemin, parce que c'est absolument incroyable de voir comment Staline a tué ou envoyé au goulag tous ses compagnons, génération après génération, enfin, cycle après cycle. Donc Staline, c'est le dévoiement personnel du communisme, mais j'ai mis lui, mais j'aurais pu en mettre d'autres, parce que ce dévoiement, malheureusement, il a été observé dans tant et tant de pays qui s'étaient ralliés à l'idéologie communiste. Et le dernier en date, peut-être, la Corée du Nord, ne fait pas exception à la règle, malheureusement. Et donc, j'ai relevé cette citation. « Dans un pays qui, en 1917, fut l'espoir du prolétariat mondial, une nomenclatura privilégiée a remplacé les possesseurs tsaristes. Et les goulags ont remplacé le bagne. Cette dictature a substitué des stakhanovistes chronométrés aux serfs surexploités et elle a changé le dénuement des moujiks en pauvreté de valeureux travailleurs. L'URSS ne fut qu'un capitalisme d'État dictatorial implacable, le contraire absolu de l'idéal rêvé. Mais ce n'est pas le rêve qui était mauvais, ce sont ceux qui l'ont trahi. » Ça, c'est quelqu'un qui est communiste et qui écrit ça en... je ne sais plus, 1993, si mes souvenirs sont bons, qui a encore cette nostalgie. Le rêve n'était pas mauvais, ce sont ceux qui l'ont trahi. Certes, le rêve n'était pas mauvais, mais il était irréaliste. Et donc, nous sommes conduits à passer à la vision biblique de l'homme. Et cette vision biblique de l'homme, eh bien, je l'illustre par cette tension paradoxale que deux grands penseurs chrétiens ont formée dans des formules qui sont à la fois concises et intéressantes. Augustin qui disait « Medius homo est inferior angelis superior pecoribus » « L'homme tient le milieu entre la bête et l'ange » dans la cité de Dieu. Et Blaise Pascal a repris cette idée en disant « Il ne faut pas que l'homme croie qu'il est égal aux bêtes ni aux anges, ni qu'il ignore l'un et l'autre, mais qu'il sache l'un et l'autre. » Très belle formule des pensées de Pascal. Et donc, nous sommes dans une tension paradoxale. Et cette tension paradoxale, je vais l'illustrer par un premier texte biblique que j'ai tiré de l'épître de Jacques, parce qu'il me semble que en deux versets, nous le trouvons, hein. Pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Donc vous voyez dans ce texte intéressant que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, mais que nous pouvons bénir et nous pouvons maudire. Et donc il y a cette tension qui existe, que ce verset de Jacques au détour d'un thème sur la langue évoque, entre le fait que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, mais que nous pouvons maudire. Que de la même bouche, il y a la bénédiction et la malédiction. Alors cette tension paradoxale, nous la trouvons, je dirais, formulée d'un point de vue plus doctrinal, dans de nombreux versets. Et entre autres, pour le fait que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, c'est ce qu'on appelle, quand on veut faire un peu savant en théologie, on appelle ça l'imago Dei, hein, l'image de Dieu dans l'homme. Eh bien, Dieu, en Genèse 1, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. » Création à l'image de Dieu, d'un être après la création duquel Dieu dit c'est très bon. Jusque-là, il avait dit bon, il crée l'homme est à l'image de Dieu, et il dit c'est très bon. L'éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Alors on pourrait se dire, oui, bien sûr, mais ces deux chapitres, Genèse 1, Genèse 2, c'est avant la chute. Sauf que nous reprenons, bien après la chute, bien après toute la violence et la corruption prédiluvienne, bien après le déluge, et bien qu'est-ce que Dieu dit ? À l'image de Dieu, Dieu a fait l'humain. Genèse 9, verset 6. La même expression est reprise. Créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, imago Dei. Je ne vais pas rentrer dans le détail de image versus ressemblance. On peut faire des petits distinguos, même si parfois les expressions sont, me semble-t-il, quelque peu synonymes. Eh bien, en tout cas, ça c'est vrai, ça c'est Genèse 1 et 2, mais il y a aussi Genèse 3. Et Genèse 3, c'est que nous sommes infestés par le péché, et c'est ce qu'on a appelé, d'un point de vue plus théologique, la dépravation totale de l'être humain. Et alors, nous avons ces textes. J'en ai pris un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. « Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit saint », nous dit Esaïe en introduction de son livre. « Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils ont tous rendu inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y a pas même un seul. » Ouf ! Romains 3, versets 10 à 12. Et alors, naturellement, nous sommes dans une tension entre ces deux séries de textes. Et quelqu'un a écrit « Optez pour la vision selon laquelle nous sommes fondamentalement bons, allô Rousseau, et vous ne connaîtrez que surprise et déception. Si vous pensez n'être que de ce côté-là, ben vous serez très vite déçu par ce côté-là. Optez pour la vision selon laquelle nous sommes seulement terribles, et vous ne remarquerez jamais la beauté et la bonté autour de vous et au-dedans de vous. » Et donc, il y a cette tension dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Tension qui est vraie pour les incrédules. Alors c'est vrai que les théologiens parlent de la déchéance totale, du fait qu'il n'y a rien de bon, que tout est infesté. Et c'est vrai que le péché de l'homme a infesté à la fois son esprit, son âme, son corps, ses actions, etc. Et on peut dire qu'il y a 0% dans l'humain qui n'a pas été touché par le péché. Et il n'y a de ce fait rien qui nous permette d'être justifié devant Dieu. Puisque de toute façon, si on a péché sur un point, on a péché sur tous. Et donc, si on est coupable sur un point, ça veut dire qu'on est coupable sur tous. Et donc, je ne pourrai jamais, à cause de cet aspect-là, parce que j'ai été infesté par le péché, je ne pourrai jamais me sauver moi-même. Même si j'ai été créé à la ressemblance de Dieu, si j'ai cette image de Dieu en moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des traces de l'humanité qui existent partout. Et qu'il n'y a aucun humain sur la terre qui incarne le mal absolu. Alors si, vous me direz, si, il y en a un quand même. Ben, c'est lui. Vous connaissez là, la moustache ? Adolf Hitler, qui pour certains incarne justement le mal absolu. S'il y avait quelqu'un qui était totalement infesté par le péché, on mettrait ça. Sauf que, eh ben, c'est pour ça que j'ai mis l'image de Hitler avec son chien, parce qu'il y a un film qui s'appelle La Chute qui a eu une petite polémique là-dessus, parce qu'on trouvait qu'il donnait un portrait un peu trop humain d'Hitler. Mais je pense que c'était un portrait qui était assez réaliste, parce que Hitler, il était très gentil avec son chien. Alors, il aurait été mieux qu'il soit gentil avec d'autres personnes, ça, je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche que, il y avait peut-être une trace d'humanité, alors peut-être que le gris allait très, très, très loin, mais il avait de la bonté pour une bête. Voilà. Et Dieu aussi a de la bonté pour une bête, pour les bêtes. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire de qui que ce soit sur la terre, et ça, c'est important par rapport à notre vision des humains en général et de tel ou tel individu en particulier. On ne peut pas faire de quelqu'un le support du mal absolu. Non. Le diable, oui. Mais les humains gardent, ne serait-ce que même à l'état de trace, qu'il est parfois un peu difficile de discerner, cette image de Dieu. Et j'ai retiré cette citation de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je ne sais pas si vous le voyez, cette barbe-là, Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn est un auteur russe qui a écrit « Une journée d'Ivan Denisovitch » et ensuite « L'archipel du Goulag », deux livres qui ont fait connaître à la planète entière la réalité de ce qui se vivait en URSS. Et Alexandre Solzhenitsyn, qui avait donc vécu des années dans des situations effroyables, où on pourrait dire qu'il touchait d'assez près le mal absolu, a écrit cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. « La ligne qui sépare le bien et le mal ne traverse ni les États, ni les classes, ni les partis politiques, mais au travers de chaque cœur humain, cette ligne dérive. Et même au milieu de cœurs submergés par le mal, il en savait quelque chose. Une petite tête de pont vers le bien se maintient. » Alors vous me direz, oui, cette tension paradoxale, là, ok, alors avec du gris plus ou moins, qui va plus ou moins loin, elle est vraie pour les incrédules, mais elle est aussi vraie pour les croyants. Alors si on prend quelqu'un de l'Ancien Testament, alors j'aurais pu prendre n'importe qui, hein, j'aurais pu me prendre moi-même, moi le premier bien entendu, mais si on prend quelqu'un de l'Ancien Testament, Moïse, à qui le compliment si grand est fait en nombre 12, il n'y avait pas d'homme plus doux sur la terre que Moïse, quelqu'un dont... On a parlé, on a lu tout à l'heure quelques lignes de lui, personnage extraordinaire. Ben, il a aussi un jour frappé le rocher et ça l'a empêché de conduire le peuple dans le pays de Canaan. Alors, et si on prend, oui, il n'avait pas l'Esprit de Dieu comme on l'a dans la Nouvelle Alliance, ok, ben, si on prend quelqu'un qui a eu quand même un impact remarquable, eh bien c'est Luther. Martin Luther, et c'est justement celui qui a écrit Simulus Justus et Peccator, à la fois juste et pécheur. Donc c'est quelqu'un qui était bien au courant de cette tension-là, à la fois juste et pécheur. Mais il a écrit peu avant sa mort des ouvrages, en particulier un qui s'appelle Les Juifs et leurs mensonges, sur le nom ineffable, qui sont des traités antisémites, et d'ailleurs qui sont tellement horribles qu'au procès de Nuremberg des nazis en 1946, eh bien, on a Julius Streicher, qui était l'éditeur antisémite des nazis condamné à mort pour crime contre l'humanité, a jugé que c'était Luther qui aurait dû être jugé à sa place et pas lui, parce que c'était lui qui avait posé les germes du nazisme.
Alors, je lui laisse à Streicher son allégation. Mais juste pour dire que même quelqu'un qui a été un instrument de Dieu absolument remarquable, qui a eu une vision de ce qu'était le salut par la foi, la grâce de Dieu exceptionnelle, eh bien, il a aussi dérivé parce qu'il était infesté par le péché. Et donc, nous avons là la vraie explication de pourquoi le communisme n'a pas marché. Le drame de la vision communiste de l'homme, c'est que l'homme est bon par nature, c'est pas qu'il a été créé à l'image de Dieu, parce qu'on élimine Dieu, on ne veut plus parler de Dieu, on parle de la nature, l'homme est bon par nature, arrière-petit-fils de Rousseau, mais surtout, on ne veut surtout pas voir qu'il a été infesté par le péché. Et pourtant, le péché revient à grand galop. Et le fait que le communisme, léninisme est dérivé en stalinisme, en est malheureusement la preuve historique dramatique. Et donc, ça c'est un point, toute anthropologie autre que biblique ne peut tomber que dans une utopie dangereuse ou un désespoir sans issue. C'est soit donc le goulag ou Nietzsche, quelque part. Donc toute anthropologie autre que biblique est soit une utopie dangereuse, c'est ce qui a été vécu 70 ans en URSS, soit un désespoir sans issue. Alors, nous avons la nécessité de vivre dans cette tension paradoxale. Et j'aimerais maintenant l'appliquer un peu à nous. D'abord, l'appliquer à moi-même. Nous avons ce texte de Galates 5 qui nous dit « La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. » Ce verset est très intéressant parce qu'il nous montre que dans le temps dans lequel nous sommes, nous n'avons pas à avoir une attente d'un perfectionnisme réalisé. Autrement dit, le jaune ici n'ira jamais jusqu'au bout. Nous resterons, tant que nous serons dans cette condition-ci, infestés par le péché. Nous resterons infestés par le péché. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un désir de progresser. Ça ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas aller dans ce sens-là, que le jaune, finalement, avance et que le gris recule. Il y a ce désir que l'Esprit de Dieu en nous promeut, suggère, pousse pour que nous avancions. Et c'est vrai que par rapport à l'incrédule, j'ai un plus puisque je suis passé de la mort à la vie, puisque Dieu vit en moi. Et donc, je n'ai pas forcément à prendre mon parti de ce qui est infesté en moi du péché. C'est pour cela que je trouve que Paul met bien l'équilibre. Il dit à la fois, il fait à la fois ce constat, hein, c'est pas que la chair convoite contre l'esprit et que l'esprit convoite contre la chair. Non, c'est un constat. La chair convoite contre l'esprit, l'esprit contre la chair, ces deux choses sont opposées. Bah oui, il y a l'ange et la bête. Il y a les deux côtés qui s'étirent. Mais, il ajoute, mais je dis, marchez par l'esprit. Autrement dit, nous n'avons pas à prendre notre parti, parce que sinon, ça pourrait être assez facile, on pourrait dire, oh, ben vous savez, moi je suis colérique, ben je suis comme ça, ben oui, je suis comme ça, hein, je suis infesté par le péché, et donc, ben si je me mets souvent en colère, je suis comme ça. Voilà. Et donc, on se satisfait, ben oui, bien sûr, un jour Dieu me changera. Ben oui, effectivement, un jour Dieu me changera complètement quand il n'y aura plus cette présence du péché, mais déjà, nous sommes quand même encouragés à marcher par l'esprit. Laissez-vous toujours remplir par l'esprit. Traduction un peu littérale de Éphésiens 5, verset 18. Donc, nous ne prenons pas vraiment notre... Si même nous avons à être conscients que cette tension sera vécue jusqu'au bout, nous n'avons pas à prendre notre parti du fait qu'il ne puisse pas y avoir de progrès. Ces progrès seront progressifs, c'est tout le sujet de la sanctification progressive, avec des hauts et des bas, mais nous espérons que la sinusoïde a un trend qui va croissant. Et la victoire peut être remportée. Alors, elle est déjà acquise par la victoire de Jésus-Christ sur la croix que nous avons rappelée tout à l'heure. Elle n'est jamais définitive parce que bien, nous retombons souvent. Hein. Le même Jacques, deux ou trois versets avant mon verset par lequel j'ai commencé, disait « Nous faillissons tous à beaucoup d'égards » et nous le constatons dans nos vies avec tristesse. Mais néanmoins, nous pouvons avancer. Donc, vous voyez, là il y a une surtension, si je puis dire. Il y a la tension que j'ai évoqué, créé à l'image de Dieu, infesté par les péchés, mais il y a une tension supplémentaire entre le fait d'avoir cette envie de progresser et de savoir que néanmoins, je n'arriverai jamais à la sanctification parfaite et que je dois renoncer à tout perfectionnisme et à toute prétention, surtout à la perfection, ce qui sera encore pire. Et du coup, ça nous pose une question que je laisse un petit peu à votre réflexion. Comment est-ce que je réagis lorsque je suis déçu de moi ? Ça ne vous arrive pas d'être déçu de vous ? Vous êtes déçu de vos réactions, déçu de la façon dont vous vous êtes comporté, déçu de ressentir ça envers telle personne, etc. Ben oui. Et être déçu de soi, est-ce que ce n'est pas quelque part, au fond, que j'ai un peu oublié que j'étais infesté par le péché et que j'ai tellement besoin de cette grâce de Dieu en Jésus-Christ pour avancer dans ce sens, n'est-ce pas ? Ben oui. Nous ne pourrons jamais nous penser aussi bas par nature et aussi haut en Christ, a dit quelqu'un. Et j'aime bien cette formule-là. Donc d'abord, cette tension paradoxale, je pense qu'il faut que nous la réfléchissions et que nous l'appliquions pour nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Alors vous aurez remarqué que là, j'ai fait la flèche un petit peu plus petite, je vais y venir pourquoi. Nous pouvons l'appliquer d'abord à notre conjoint, pour ceux qui sont mariés, à nos enfants, à nos frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que, si j'oublie ça, ce schéma-là, créé à l'image de Dieu, infesté par le péché, enfin, Anne est montée avec les enfants, mais j'aurais dit la même chose devant elle, c'est que si j'attendais de Anne qu'elle soit que côté gauche, là, créée à l'image de Dieu, je ferais peser sur elle une attente totalement irréaliste. Mais certains se marient un petit peu avec inconsciemment cette idée-là. J'attends le conjoint parfait, celui qui est créé à l'image de Dieu. Voilà, il sera parfait, il ne mettra jamais en colère, il sera toujours serviable, toujours, etc. Et elle, pareil. Voilà. Et donc, du coup, on attend quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. On attend Adam avant la chute ou Ève avant la chute, et puis ne les rencontrera jamais. Désolé. Hein. Mais d'un autre côté aussi, cette tension, il ne faut quand même pas désespérer de son conjoint. Voilà. Et donc, il est infesté par le péché et ses réactions me déçoivent un peu plus souvent que ce que je pensais peut-être dans mon idéalisme initial. Mais néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de beauté créée à l'image de Dieu. Et on voit bien qu'en particulier dans le couple, ce qui permet de faire avancer la petite flèche, là, c'est bien souvent la façon de se frotter l'un à l'autre, n'est-ce pas ? Je pense que ceux qui ici sont mariés seront d'accord avec moi. Et c'est valable aussi par rapport à nos enfants. Comment on appelle parfois les enfants ? Vous savez, des petits anges. Oh ! Oh ! Petits anges. Petits démons aussi, parfois. Hein ? Ben oui, ils sont comme nous. Hein ? Ils sont faits à notre ressemblance aussi, à notre image. Et quand nous voyons nos propres défauts dans nos enfants, eh bien, ça nous permet aussi de progresser. J'en sais quelque chose. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut là aussi ? Il faut être réaliste. Ce n'est pas des petits anges parfaits. Et ça, je pense que ceux qui sont dans l'enseignement, peut-être rencontrent des parents qui sont encore dans cette illusion-là. Et quand il y a un truc qui se passe mal, mais non, ce n'est pas possible que mon enfant ait fait cela. Si, c'est possible. Voilà. Et donc, par rapport à nos enfants, il faut que nous soyons capables d'apprécier ce qui est bon chez eux et aussi de déceler le péché en lui pour l'éduquer sagement. Sans se sentir écrasé par notre incapacité à le rendre parfait, parce que j'aurais beau pousser, il restera toujours du gris, ni nous laisser aller à l'orgueil en raison d'une vision de lui qui sera enjolivée où j'aurais oublié le gris. Et pareil aussi par rapport à nos frères et sœurs. Et donc la question se pose sur le réalisme de nos attentes vis-à-vis de ceux qui nous sont proches, nos conjoints, nos enfants, nos frères et sœurs. Je vais conclure. Sur cette terre, donc, les humains sont toujours dans cette tension entre créés à l'image de Dieu, infestés par le péché, sauf un. Jésus-Christ, c'est comme ça. Et quand Pilate, quelques instants avant que Jésus meure, sort et présente Jésus à la foule en disant « Voici l'homme !» Ses propos dépassaient ce qu'il pensait de façon incroyable. Pourquoi ? Parce que l'être humain, naturellement, si je puis dire, au départ, il n'était pas comme ça. Il était comme ça, créé à l'image de Dieu. Le péché est une irruption, c'est quelque chose d'étranger, quelque part, à l'humanité fondamentale telle que Dieu a créé l'être humain. Et c'est pour cela que, quand Pilate dit « Voici l'homme, ecce homo », eh bien, finalement, il dit une vérité exceptionnelle, puisque celui qui a été véritablement humain dans toute la pensée initiale de Dieu, sans avoir été jamais contaminé par le péché, tous ces textes que nous avons qui nous disent et qui nous affirment et qui nous réaffirment que Jésus n'a pas été infesté par le péché, il n'a pas de péché, il n'a pas commis de péché, il n'y a pas de péché en lui, etc. Eh bien, tout cela nous permet de comprendre qu'en fait, en Jésus, nous voyons l'humain, l'homme nouveau, tel que Dieu l'avait créé. Jésus-Christ est le véritable homme nouveau, et c'est pour cela que nous avons ces deux belles expressions de 1 Corinthiens 15, ce chapitre de la résurrection, ce chapitre qui ensuite va nous parler de la façon dont nous-mêmes nous allons être amenés vers cet homme nouveau, eh bien en nous disant qu'il est le second homme et le dernier Adam. Donc Jésus-Christ est l'homme nouveau, et à sa suite nous sommes des hommes nouveaux. Nous sommes des chrétiens qui sont rendus semblables à Jésus-Christ. Alors sur le principe, c'est vrai, hier, nous avons cette belle affirmation d'Éphésiens 2, verset 15, qui nous dit que par la croix, eh bien, Jésus a créé en lui-même un seul homme nouveau, c'est-à-dire que nous sommes tellement associés à Jésus-Christ, tellement vus en Jésus-Christ, c'est la thèse de l'Épître aux Éphésiens, que désormais, l'homme nouveau que Jésus-Christ devient, nous le devenons en étant en lui, donc ça c'est en principe, c'est la partie doctrinale, si je puis dire, mais progressivement aussi, il y a ce très beau texte de 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Et grâce à cette métamorphose progressive, c'est un temps continu, eh bien le jaune progresse, et le gris régresse. Le gris sera toujours là, encore une fois, mais le jaune progresse. Et demain, parfaitement, nous serons à l'image de l'homme céleste, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 49. Et cette fois-ci, le gris aura complètement disparu. Alors, pour dernière planche, l'idéal communiste, il est réalisé. Vous vous rappelez les aspirations que j'ai indiquées tout à l'heure, qui avaient donné naissance à ce mouvement ? Des hommes nouveaux. Ah oui. Des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, eh bien, je commence à en voir ici, autour de moi, quand je vous regarde, les uns et les autres. Bien entendu, il y a encore un petit peu de gris, ici ou là, mais le jaune paraît de plus en plus. Et un jour, ces humains seront complètement nouveaux. Une société juste, là aussi, l'Église, au travers de tant de faillites et de problèmes, etc., a voulu, dès le départ, être ce germe de cette société qui sera définitivement juste. Et puis, le grand jour qu'attendaient les révolutionnaires, ce grand jour, le grand soir ou le grand matin, comme on veut, l'espérance atteinte. Quelle est belle cette phrase de Pierre, où l'apôtre Pierre, avant de finir sa lettre, qu'est-ce qu'il met ? Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. Eh bien oui. Ce n'est pas possible encore aujourd'hui, parce que comme le dit un chant d'éclat de joie, j'en ai assez, vous savez, ce chant, il faudrait changer l'homme. Ben oui, effectivement, il faudrait changer l'homme pour que la justice habite. Et c'est pour l'avoir oublié que le communisme s'est pourvoyé, mais grâce à l'œuvre de Christ dans des hommes et des femmes, aujourd'hui, nous avons cette espérance qui sera un jour atteinte de ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre sur laquelle la justice habitera. Et cela dans la présence directe de Dieu, parce que ce qui avait été oublié pour nous est au centre, c'est que l'habitation de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui-même sera avec eux leur Dieu. Nous avons tous besoin de vivre d'espérance. Il y a des générations d'hommes et de femmes qui ont espéré dans un système humain meilleur, dans une amélioration de leurs conditions de vie. Et ils avaient raison de le faire, parce que leurs conditions de vie étaient horribles. faut bien se rappeler que le communisme est né dans la noirceur terrible de la révolution industrielle en Angleterre. Ils avaient raison d'espérer quelque chose, mais cette espérance n'était qu'une utopie parce qu'elle oubliait Dieu. Et ce n'est que dans cette présence de Dieu que les matins vont chanter définitivement. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de vivre dans cette attente, dans cette espérance de ce grand jour, de ce lendemain qui va chanter, et de vivre sagement et réalistement la tension dans laquelle nous sommes, à la fois créés à l'image de Dieu et infectés par le péché, dans ce désir de tendre aussi vers le changement.